Mes croquinettes, mes choupinous, de nouveau sur les ondes, accompagnés de mon fidèle Tigrou. Nous allons dans cet épisode explorer l'infini. Huitième épisode, et le 8 couché devient le symbole de l'infini. Et l'infini, c'est long, surtout vers la fin. Il y a donc un moment où c'est peut-être lassant d'être immortel, et si vous ne me croyez pas, essayez donc de rester réveillé une semaine sans dormir. Et vous comprendrez alors pourquoi dormir est le plus grand privilège des êtres vivants. Il y a des hommes bruns qui se teignent en blond et des blonds qui se teignent en brun, comme il y a des êtres qui rêvent d'immortalité et des immortels qui aimeraient bien en finir. Pour explorer le temps qui se dilate et se contracte aux flux et reflux des marées, nous allons embarquer sur un radeau. Oui, un bateau tout carré avec deux mâts et un gouvernail foireux. Et avec des rêves de grandeur, le capitaine Eric de Bishop et ses quatre compagnons d'équipage voudraient rejoindre Tahiti depuis le Chili. Une grande aventure à travers le Pacifique, comptée dans le journal de bord tenu par Jean Pélissier pendant tout le voyage. À la page 105, Hans s'écrie « Je donnerai 10 ans de ma vie pour sortir d'ici !» Et Jean se répond, tu parles, qu'est-ce qu'on te donnerait pas? C'est plus un radeau, c'est la galère. Une galère dangereuse, où l'on risque sa vie à chaque lame, où dans la détresse, chaque minute s'écoule si lentement que la torture de la soif, de la faim, la peur de chavirer rendent l'envie de vivre furieuse et fragile. Bienvenue à bord du Tahiti Nuit 2, une plateforme faite de 3 couches de troncs de bois pour une longueur totale de 12 mètres et une largeur de 5 mètres. Sur cette plateforme se trouve une cabane de 3 mètres par 2 qui regroupe toute la vie à bord, cuisine, couchette et matériel compris. C'est spartiate, c'est osé, on est en 1958 et l'aventure commence vraiment après la seule escale du voyage au Pérou. Dimanche 4 mai, nous naviguons sur une chaussée liquide, illuminée. Le radeau monte, s'enfonce, tangue doucement dans la lune. Des ampoules verdâtres éclatent tout autour de nous. Flashs de feu violet des méduses, des ventres de dorades jaillissent des éclairs argentés. La grande croix de notre mât d'Artimon, libre de ses hautes voiles, déchire de son ombre notre grande voile polynésienne. Le temps est couvert, il y a juste un mois que nous sommes partis. Quand arriverons-nous? Dans un mois et demi? Plus? En écoutant la radio française, on apprend que c'est l'anniversaire de l'armistice. Mot ironique du capitaine. La mer est très forte depuis quelques jours. Un matin, nous apercevons par bâbord une dizaine de flotteurs de liège. Serions-nous enfin dans ce fameux courant sud-équatorial? Depuis 4 à 5 jours, nous faisons une bonne moyenne, 57 000 par jour. Pour un radeau à moitié enfoncé, ce n'est pas mal. Notre ligne de flottaison a légèrement baissé. Nous vérifions les fûts d'eau douce vides afin de voir s'ils y ont pompé de l'eau de mer. Dans la cabane, il y a une couche de quelques millimètres d'eau, mais qui ne dépasse pas le niveau des nattes d'osier. L'eau entre par les jointures à l'endroit où les plaques de contreplaqué sont assemblées. Notre sommeil est bercé par un gros bruit de succion provoqué par la mer qui essaie de pénétrer par les interstices. En plongeant, j'inspecte les fûts de 200 litres vides amarrés sur l'arrière. Ils semblent bien tenir. « Ça ira jusqu'à Tahiti !» dit Eric. « Espérons-le, sinon on n'aura plus qu'à partir chacun sur un tronc de cyprès et adieu va !» Nous sommes maintenant dans un courant favorable, dans la centième ouest, notre cinquième semaine de voyage en mer. Je ne regrette rien. En fait, un voyage de ce genre, c'est très long. Je pense souvent à ma famille, à mes amis restés en France, la tête pleine de projets d'évasion. Que deviennent-ils? Comment vais-je les retrouver? On entend à la radio de vagues échos d'Alger. On parle de révolution en France. Comme cela nous semble lointain. Au moins, nous vivons en dehors de ces vicissitudes politiques. Avec Hans le soir, étendu sur le toit de la cabine, nous faisons des projets. Expédition en Amazon, recherche de pétrole au Pérou, pêche à la nacre, tout nous semble réalisable. 5 semaines en mer, 11 semaines d'expédition déjà. Toujours à bord du Tahiti Nui, on est le 14 mai, 6 semaines de voyage. La pêche reste notre grande distraction, mais depuis quelques jours, trop de requins suivent le radeau. Plus question de harponner les dorades. Nous mettons au point un nouveau système. L'un de nous se met à plat ventre sur la plateforme immergée du radeau, le corps à moitié dehors. Comme nous sommes très bas sur l'eau, on peut, avec un masque sous-marin, jeter sans trop de danger un coup d'œil sous la mer. Notre vitesse est assez grande en ce moment, il faut bien s'accrocher, de grosses vagues nous dégringolent dessus. Mais le spectacle en vaut la peine. D'abord, nos inévitables dorades nous passent à moins de 10 cm du nez. Plus loin, une dizaine de requins entourés de leurs pilotes multicolores. Et enfin, le plus étrange, un banc de thon passe en rang serré à une vingtaine de mètres sous le radeau. Ils sont tous de la même taille, une trentaine de centimètres. Quelques-uns nagent contre la caudale des requins. Et parfois, ils semblent se frotter, frétiller contre la queue du squale, qui ne se détourne même pas. Il reste beaucoup de choses que nous n'aurons jamais découvertes au cours de ce voyage. Pourtant, j'ai appris davantage ici qu'au cours de toutes mes études ou pendant mes 25 ans de vie. Les dorades en particulier restent pour moi un sujet perpétuel d'émerveillement. J'étais arrivé à bien les connaître à force de les observer, soit en surface, soit en plongée. C'est sans doute le poisson dont la curiosité est la plus éveillée. Les dorades adorent jouer. Il suffit que l'on jette un morceau de bois à l'eau pour qu'elles foncent dessus, passant et repassant, faisant miroiter leurs couleurs admirables. Souvent, lorsque je me mettais à l'eau, je trouvais tout le banc en feuilles mortes, comme endormies. Lorsqu'elles me voyaient, elles nageaient nonchalamment vers moi. J'avais alors beau jeu de les harponner. Toujours du sud 70 au compas. Ce n'est pas brillant. Le vent ne tourne pas malgré l'optimisme d'Alain. Il faut pourtant gagner dans le sud si l'on veut passer entre les Marquises et Puka Puka. La grande voile se déchire sur une longueur d'un mètre. On amène tout pour réparer et c'est une bénédiction pour l'homme de barre. En effet, le nouveau gouvernail, plus grand que son prédécesseur, est très difficile à manœuvrer. Pour faciliter l'écart, nous avons installé sur la barre un système de poulies avec rappel. Au lieu de tenir le timon, nous tirons sur une écoute. Un fort caoutchouc amarré de l'autre côté sert de rappel. Après 2 heures de quart, nos mains sont complètement sciées, rouges, abîmées. C'est épuisant et nous sommes forcés de nous relayer toutes les heures. Le radeau gouverne très mal, il zigzague de vent arrière à vent de travers et ne revient pas. Nous sommes obligés de prendre le quart à deux, l'un en braquant ou choquant les écoutes de phoque pour faire revenir le radeau, l'autre à la barre. 12 heures de quart pour chaque bordée, ce n'est plus un radeau, mais une galère. Un mois s'est écoulé, nous sommes le vendredi 13 juin. Pas de vent. Juanito se casse une dent en se cognant contre l'un des montants de la cabane. Il est très vexé. Samedi 14 juin. On est toujours trop au nord, il s'agit de ne pas rater les îles Marquises, sinon on est cuit. Dimanche 15 juin. Mauvais moral de Hans, il ne s'intéresse plus à rien. Quand on vit en circuit fermé, on éprouve parfois le besoin de se liguer contre une seule personne. C'est lui qui en supporte les conséquences actuellement. Ça passera, le temps fraîchit. Lundi, mardi, le vent redouble, le radeau est plein d'eau. Une rafale nous couche sur tribord, on manque de chavirer. La grand voile est enfin amenée. Elle s'affale dans la mer, augmentant notre gîte. Assommé par de grosses lames, on arrive quand même à la ramasser. Des rêvons toujours dans le nord-est, inquiétant. Vendredi, les grains forcent encore. Dans l'après-midi, légère accalmie. Il faut prendre des risques. On hisse toutes les voiles. À midi, la méridienne nous met plus dans le nord. Nous gouvernions pourtant au sud-ouest au compas. C'est désespérant. Juanito n'a pas l'air dans son assiette. Hans et Alain s'engueulent pour des riens. Le soir, le vent s'établit plus régulièrement à 18 nœuds. Le mauvais temps ne nous laisse plus de repos. Cette nuit, les grains ont repris. Tassés sur le toit, nous regardons avec impuissance et rage le radeau qui continue à dériver dans le nord-ouest. « Il faudra bien que le vent tourne, » murmure Alain. Nous sommes tout près de le croire. Le capitaine tousse beaucoup. Son souffle sifflant nous inquiète. Malgré le vent, nous hissons à nouveau. Hans est à la barre. Le radeau prend un peu de vitesse, mais pas dans la bonne direction. Dimanche, 17h, espérons toujours atteindre Eao, au nord des îles Marquises. Presque plus d'eau, à peine 40 litres, de plus en plus saumâtre. Les quelques litres d'eau douce qui nous restent sont réservés au capitaine. Il ne peut souffrir l'eau polluée. Lundi, 1er juillet, plus aucun espoir d'atterrir aux Marquises. Il nous reste les Tuamotu, à 800 milles dans le sud. Mardi 2 juillet, chaleur, soif, rationnement de l'eau saumâtre, 1 demi-litre par jour et par personne. Le 5 juillet, Eric demande à Alain si tout le monde est d'accord pour l'envoi d'un message de détresse. « Il n'y a pas de demi-mesure », répond le second, envoyant un SOS. Juanito met en marche le petit générateur TSF pendant que nous essayons de bricoler l'antenne. Peine perdue, l'émetteur Headskit refuse de fonctionner. Toutes les lampes s'allument bien, mais l'aiguille de l'ampèremètre reste bloquée au maximum. Lundi 14 juillet, 5h30. Un bateau ! Hurle Hans à la barre. Galopade générale. Où ça, où ça ? Là-bas, dans l'est ! Au loin, une mince colonne de fumée. Le miracle s'est accompli. Juanito remplit le brasero de vieux chiffon. Il arrose le tout d'huile de moteur. Le feu est long à prendre. Il y a trop de vent. La fumée est rabattue. Je monte en haut du mât et fais des signaux avec un pareo. Chacun s'est saisi d'une pièce d'étoffe de couleur et l'agite en tous sens. Le bateau n'est plus loin maintenant. C'est un vieux vapeur qui marche lentement. Il met 2 heures pour disparaître. Nos bras sont noués de crampes. « Il doit nous voir, il doit nous voir !» répète Alain d'une voix rageuse. Non, il ne nous voit pas. Lentement, très lentement, il disparaît. Nous sommes effondrés, aphones, désespérés. Thank you. Rétro 2567, nous voguons à bord du radeau Tahiti Nui numéro 2. À moitié coulé, en plein milieu du Pacifique, plus rien à boire, plus rien à manger, la catastrophe. Et quand tout à coup, pourvu qu'il vienne, Hans regarde derrière nous. Je ne veux pas me retourner. Depuis hier soir, le temps s'est couvert. Nous avons vu des grains tomber à quelques mètres de nous. Mais encore rien ici. Un nuage noir nous entoure. Qu'il pleuve, nom d'un tonnerre! De l'eau! Mes lèvres sont sèches. Pouvoir boire des litres et des litres à en éclater. De l'eau! Hier après-midi, nous avons harponné un requin. En l'égorgeant, nous avons soigneusement recueilli son sang. J'ai conservé la tête et fait bouillir le tout dans de l'eau de mer. Résultat, un bouillon noirâtre, ammoniacal, salé. Une odeur horrifique s'en dégage, mais nous le buvons avec délice. Hans est le plus acharné. Toutes les 5 minutes, il disparaît pour ingurgiter un peu de caldo de tiburón. Nous avons essayé toutes les combinaisons possibles pour boire de l'eau de mer. Nous l'avons mélangé avec de l'eau douce, puis avec du Nescafé, du miel, du lait concentré. Mais le bouillon de requin, vraiment, c'est le comble. Je regarde ma montre, 1 heure, pas un souffle de vent. Une mer étale, et là-haut, menaçant, le nuage noir. Hans, silencieusement, prépare la toile qui nous sert à recueillir l'eau de pluie. Il la fixe à 2 piquets installés au coin de la cabane. La toile est raidie de façon à former un entonnoir. 2 heures du matin, Hans vient me relayer à la barre. Il fait chaud, je prends un bain. Soudain, doucement, la pluie tombe. Hans réveille les autres. Nous tendons notre visage aux gouttes. Il pleut de plus en plus. Nous hurlons de joie. Un énorme jet coule de l'entonnoir. Nous remplissons une dame Jeanne, puis une autre. Je porte un quart d'eau au capitaine. Il boit avidement. « Merci, dit-il. Je te dois la plus belle joie de ma vie. » Et c'est ainsi que se termine la vie d'Eric de Bishop et l'histoire du Tahiti Nui. Radeau, galère, source des plus grandes joies et des plus belles frayeurs au beau milieu du Pacifique. Là où le ciel et la mer se joignent et se confondent, mêlant le fini et l'infini, le fragile et l'éternel.
Par exemple, permettez que je me présente, Tigrou, T-I-W-G-R-O-U, j'ai un grotte plus que les autres.
Allez mon petit Tigrou, à toi les manettes pour un DJ set, tranquillou, tranquillou, tout doux, tout doux, à pas de velours.
C'était Rétro 2567, une émission proposée et podcastée par
Radio Zapatron.